Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine et que ça se passe bien pour vos projets. Cette semaine, on se retrouve avec une invitée très spéciale qui est Mali Allen, qui a écrit plusieurs romans, qui a plusieurs cordes à son arc et qui vient de sortir un roman, Les Passeurs de rêves, en auto-édition, sur Amazon KDP, si je ne me trompe pas. Ouais. Et tu as aussi publié récemment La Ville en rose.
Oui.
Yes. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Et puis, on va aussi aborder ta méthode parce que c'est le sujet de l'interview. Mais très contente de te recevoir. Ça me fait vraiment plaisir de parler de tout ça avec toi. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour nos auditeurs?
Oui, bien sûr. Merci déjà pour ton invitation. J'étais super contente.
Ça fait plaisir.
Trop, trop plaisir. Alors, du coup, bonjour tout le monde. Moi, c'est Mali. J'ai 24 ans. Je suis autrice, je dirais que c'est mon activité principale, étant donné que toute ma vie, j'ai toujours fait tourner tous mes choix autour de ça. Donc j'écris, comme elle a dit, plusieurs romans. Donc là, je suis en train d'achever mon 18e. Je suis vraiment à la fin, je suis pas très...
Ouais, ça fait beaucoup.
Après, il y en a en vrai, il y en a deux que je compte, où genre, je les écris au collège, tu vois. Donc c'est pas des trucs de ouf, c'est juste que je suis allée jusqu'au bout, et c'était vraiment un truc inédit. Donc je les compte. Mais bon... Ils verront jamais le jour, tu vois. Ouais, à côté de ça, du coup, j'avais un podcast. J'ai toujours un podcast. Je l'ai mis en pause parce que ça prend du temps. J'ai les réseaux sociaux où je suis quand même assez active, surtout sur Instagram. Newsletter aussi. Et puis, j'aime beaucoup lire. Et voilà, je suis assez créative. En fait, j'aime bien dessiner aussi. Je me suis remise au dessin. Enfin, voilà, il y a plein de trucs, mais surtout l'écriture.
Ouais. Comment tu t'es mis à écrire? Genre, c'était à quel âge? C'est quoi ton parcours vraiment avec l'écriture?
J'ai commencé à écrire, je pense, à 7-8 ans. Enfin, comme beaucoup de gens répondent, quand j'ai su tenir un stylo, grosso modo. J'écrivais plein de choses différentes. J'écrivais des petites histoires dans un cahier, j'écrivais des chansons, j'écrivais des journaux intimes, mais genre très assidûment. Genre, je pense que j'ai 10 carnets qui sont remplis, où t'as mon année entière dedans. J'écrivais des poèmes, des chansons, enfin bon, voilà. J'ai commencé un peu par plusieurs choses et j'ai commencé à écrire mon premier roman, j'avais 11 ans. Celui-là, je ne l'ai pas fini. Je crois que j'en ai fini. Celui que j'ai fini, je devais avoir 12-13 ans. J'écris des fanfictions aussi, sur fanfiction.net, des fanfictions Harry Potter, parce que c'est la vie. Genre, surtout des Drago Hermione, voilà, c'est mon couple préf. Et en fait, ça m'a toujours... Enfin, dès que je rentrais chez moi le soir, c'était l'écriture, quelle que soit sa forme, en fait, j'ai toujours fait ça. Jusqu'à ce que... Mais même en vrai, à 14 ans, je me disais que je voulais faire ça de ma vie. Sauf que, on me disait que c'était pas un métier. Donc, en fait, j'ai passé toute la fin de mon collège et le début de mon lycée à me dire, je vais faire quoi comme vrai travail et tout. Et je trouvais jamais, franchement, je passais d'un truc à l'autre. Ça me plaisait pas parce que à un moment, je me suis... intéressée à l'orthophonie, et après je me suis dit, mais si t'es orthophoniste, en fait, tu pourras jamais écrire, parce que laisse tomber, t'auras jamais le temps, en fait. Enfin, bref, donc on m'a toujours dit de trouver un vrai travail, et moi, j'ai jamais trouvé autre chose. Donc en fait, j'en suis encore à ce stade, à 24 ans, où je fais en sorte d'avoir du temps pour l'écriture, et voilà.
On connaît bien le « c'est pas un vrai métier », oui. Et je suis un peu au même stade que toi, à tout faire pour avoir le temps d'écrire. Et il n'y a comme aucun autre métier qui me tente vraiment. Je comprends. Et ça m'impressionne beaucoup, les 18 romans, parce que tu dis que tu as terminé ton premier roman à 12 ans. Ben moi, c'est à 12 ans que j'ai commencé à écrire des romans. Et après, ça m'a pris 10 ans en terminer un. Donc vraiment, je trouve ça très cool.
Bah, en vrai, c'est fréquent. Enfin, je sais qu'il y a tellement de ouais. gens qui ont commencé tôt et qui, en fait, n'y arrivaient pas. Mais c'est normal. Même moi, ça m'est arrivé en vrai. Hein, parce que entre mes 8 et mes 13 ans, en fait, j'ai commencé plein de débuts de romans que j'arrivais pas à finir non plus.
Ouais, ben, à cet âge-là, en plus, j'ai du mal à concevoir qu'on peut réussir, genre, mais ça se peut. Ouais, mais c'est comme, ouais. On est jeune à cet âge-là, donc c'est quand même surprenant ouais. quand on y arrive.
Déjà que t'aies l'envie à 8 ans, c'est fou.
Ben oui, aussi. Ouais. Parce que c'est quand même un gros, gros projet, là, écrire un roman, donc truc de longue haleine. Ensuite, j'aimerais ça que tu nous pitches ton projet, justement, qui vient de sortir, Passeur de rêve, pour qu'on ait une petite idée de quoi ça parle.
Ok, alors Passeur de rêve, c'est le premier tome d'une saga qui a une longue histoire. C'est un peu la saga de ma vie parce que, du coup, parmi tous les 18 projets que j'ai écrits, en fait, il y en a 10 qui sont de Passeur de rêve. Il y avait 10 tomes.
Ouais.
Voilà, donc déjà, ça fait un truc qui m'a pris de mes 15 à mes, de mes 14 à mes 21 ans. Et donc là, je suis en train de les retravailler. Donc le tome 1 est déjà sorti en maison d'édition en 2022. J'ai récupéré mes droits d'auteur et j'ai republié. Donc là, il y a 2 semaines, même pas, en auto-édition. Et là, je suis en train de faire une refonte pour réduire le nombre de tomes, parce que j'écris d'énormes pavasses et en plus une énorme saga.
Ouais.
Voilà, donc, justement, j'en parlais dans l'épisode table ronde où j'avais invité la dernière fois. Et donc là, cette version qui vient de sortir, c'est le tome 1 et le tome 2 de l'ancienne version, en fait. Enfin, bref.
OK.
Donc, enfin, je vais faire en sorte qu'il y ait 7 tomes au final, avec une saison 1 où c'est une trilogie et l'histoire se termine, enfin, on peut s'arrêter là, en fait. Et ensuite, une saison 2 qui se déroule quelques années plus tard où les personnages, ils ont grandi. Et c'est une seconde intrigue qui se lance et il y a 4 tomes. Voilà, c'est l'idée. Bon, je sais pas comment je vais faire, mais je vais me débrouiller. Donc, Passeur de rêve, c'est l'histoire de Miley qui a 16 ans et qui découvre qu'elle peut concrétiser les rêves et les cauchemars dans la réalité. Donc, en fait, c'est un gène qui apparaît au hasard parmi la population, extrêmement rare. Et ben, il n'y en a que quelques-uns en France. Et en fait, elle doit apprendre du coup à maîtriser sa faculté qui est assez puissante pour éviter de blesser les gens. Parce que ben, les rêves, c'est cool, mais du coup, les cauchemars, on peut les concrétiser aussi sans faire exprès. Quand on maîtrise pas, et du coup, voilà. Donc, la première fois qu'elle concrétise un cauchemar, elle met le feu à sa maison. Donc, voilà, ce genre de truc, typiquement, est vital.
Ça se
Donc, en
passe
fait,
bien au
elle
début.
est... Ouais, voilà, c'est ça, c'est direct le trauma, tu vois. Donc, elle est envoyée dans une école, un centre de formation à Paris, qui est en fait logé dans un rêve concrétisé. Donc, en fait, c'est un peu comme une autre dimension, quoi. Tu franchis une porte, et puis derrière, c'est un truc un peu merveilleux et tout. Quand elle arrive dans ce centre de formation, bah, c'est un peu la panique. Déjà, c'est la plus jeune de toutes. En fait, normalement, les passeurs ont le gène qui se manifeste à partir de 18 ans, enfin, jeune adulte, et elle a que 16 ans. Donc, en fait, personne la croit. Tout le monde se dit qu'elle est arrivée là par hasard. Et en plus, il y a un meurtre qui a eu lieu au sein du centre, ce qui n'était jamais arrivé avant. Et donc, c'est un peu la panique, parce que bon, tout le monde. Enfin, il y a la police qui rôde, les accusations qui tombent et tout ça. Et donc, elle arrive à ce moment-là, et bah, pour essayer de montrer un peu qu'elle a sa place ici et tout, elle se dit qu'elle commence à s'intéresser au meurtre. Et notamment quand la défunte, donc Rose, apparaît dans ses rêves. Elle se dit qu'il y a peut-être moyen de moyenner pour trouver le fin mot de l'histoire et que ce serait peut-être la façon de trouver sa place en fait et de montrer qu'elle a sa place ici. Donc, ça c'est pour le tome 1. Et après, bon, elle embarque pour une aventure pour plusieurs tomes, mais voilà le
Ok,
petit pitch.
nice. L'autrice, en fait, de Long Pavé en moi comprend absolument ton immense saga. Comment t'as fait pour raccourcir autant ou comment tu comptes faire, en fait?
Pour raccourcir, alors, j'ai déjà fait. Déjà, j'ai le plus dur en vrai, c'était les premiers tomes. Parce que le premier tome, je l'ai tellement retravaillé. Enfin, je l'ai écrit, j'avais 16 ans. Donc, en fait, il a été publié en maison d'édition. Déjà, j'avais 21 ans ou 22 ans. Donc, déjà, en fait, il y avait déjà un truc qui me déplaisait. Où, en fait, je ne savais pas comment le changer. Mais je sentais que enfin, entre-temps, j'avais écrit plein de livres, j'avais déjà écrit tous les tomes de la saga, et du coup, je savais qu'il y avait des trucs qui me plaisaient pas, mais je savais pas comment les changer. Et en fait, une fois que j'ai récupéré mes droits, j'ai réussi, je sais pas, peut-être à force d'écrire d'autres livres, de les réécrire. Entre-temps, j'avais publié La Ville en Rose, ou enfin, j'avais abouti La Ville en Rose, et j'étais allée jusqu'au bout, et du coup, peut-être que ça m'a permis en fait d'avoir assez de recul. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à trouver en fait ce qui allait pas, ce qui clochait dans le livre. Honnêtement, je le réécrirais différemment maintenant, mais j'en ai fait quelque chose, je pense, qui a mis chemin entre la moi de 16 ans, que je ne pouvais pas trahir, et la moi de maintenant. Et en fait, le premier défaut que j'avais, moi, dans l'écriture, c'était que j'écris, enfin, je m'étale énormément. Et en fait, j'en ai besoin, je pense, pour me familiariser avec l'univers, surtout en début de saga. En plus, j'étais jeune. Et du coup, en fait, c'est ça qui a été. Que j'ai réussi à faire, en fait, c'est couper. Parce que je savais qu'il fallait que je coupe, mais je savais pas quoi. Et là, j'ai réussi à trouver qu'est-ce qu'il fallait que je coupe et comment s'il y avait des trucs inutiles et tout, avant, j'arrivais pas à les voir parce que j'avais trop le nez dedans. Le tome 1, je l'ai lu 50 milliards de fois, je ne peux plus me le saquer. Et donc, j'arrivais plus, tu vois, en fait, il était tellement ancré dans ma tête que je pouvais pas savoir ce qui se supprimait. Et donc, finalement, j'ai réussi à le faire ça et à fusionner avec le tome 2, ce qui fait qu'au final, bon, c'est que ça reste une pavasse. Il y a autant de mots que la première fois que je l'ai publié, genre 160 000 mots, un truc comme ça. Mais en fait, il y a le tome 1 et 2 couplés, donc en fait, ça veut dire que je les ai coupés en deux. Et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi en fait à trouver les trucs vraiment inutiles qui étaient dedans et à enlever toutes les longueurs et même à trouver d'autres moyens de, tu vois, je faisais beaucoup de info dumping et ça c'est les erreurs de premier roman, tu vois, et du coup j'ai cherché d'autres moyens de donner les infos de façon plus subtile, plus précise, plus courte et tout. Et en vrai, c'est surtout ça qu'il faut faire comme travail, je pense. Après, j'ai changé d'autres choses parce que comme on a changé d'époque un petit peu entre-temps, bah, y avait des trucs qui étaient façonnés par ce que je voyais dans la littérature ou dans les films, genre notamment les relations hommes-femmes, où en fait, maintenant, ça me dérangeait. Mmh. Donc, il y a des scènes que j'ai réécrites comme ça aussi. Mais ouais, grosso modo, je l'ai remis un peu à l'ordre du jour en coupant et en essayant de voir qu'est-ce qui serait dérangeant aujourd'hui. Il y avait des trucs qui me choquaient et d'autres où j'ai dû demander à des gens en fait de m'aider. Et grosso modo, c'est ça que je vais faire sur la saga. Je pense que déjà, de toutes les façons dont je m'étale, il y a des trucs, il y a plein de trucs à enlever où ça va m'aider en fait à rassembler les tomes, tu vois.
Je comprends. Ben, je vois totalement ce que tu veux dire quand tu dis que tu es tellement dans ton roman, tu l'as lu tellement de fois que tu sais plus toi-même qu'est-ce qui devrait être enlevé. Puis je le vis un peu avec La Traverse Rêve aussi.
Oui, mais en fait, tu le connais par cœur et du coup, tu n'arrives pas à voir. Même, tu vois, des fois, il y avait le début, je me disais, mince, j'aurais pu faire le début différemment. En fait, maintenant, je ne peux plus voir un début différent de ça. C'est juste pas possible.
C'est
il est tellement ancré, tu vois.
C'est comme si ton cerveau ne voit plus toutes les avenues possibles.
Exactement. Il n'y a qu'un chemin, en fait. C'est celui-là, ça n'existe pas autrement.
Ouais. Ça peut être bien comme handicapant, dépendamment de ce qu'on essaie de faire avec le roman. Ouais. Et par rapport à ta reprise de droit, je pense que tu en as parlé sur le podcast d'Élise, c'est ça? Donc, si jamais les gens veulent en savoir plus à ce propos-là, n'hésitez pas à aller voir le podcast d'Élise. À part ça, je voulais te demander... Bon, là, on a une petite partie de réponse depuis le début, mais c'est quoi tes aspirations avec l'écriture?
Très vite, j'ai voulu que ce soit la tâche que je fais tous les jours, mon activité principale. Donc, comme je te disais tout à l'heure, à 14-15 ans, j'avais déjà l'idée que je voulais que... Enfin, je me sentais déjà écrivaine, en fait. Et après, c'est vrai que... Donc, c'est mon ambition. Enfin, j'ai changé d'avis parce qu'on m'a dit... c'est pas un métier. Et moi, je m'étais dit... C'est vrai que peut-être d'avoir de la pression, même si j'idéalisais ça, je ne connaissais pas le monde de l'édition et tout, mais je me disais, j'imagine que si t'as un éditeur derrière, c'est pas la même chose, ça devient ton travail. Et même à 14-15 ans, j'avais conscience en fait que peut-être que quand ta passion devient ton travail, c'est plus compliqué et je savais pas comment j'allais gérer ça. Donc pendant tout mon lycée à peu près, je n'ai plus envisagé ça comme ça, jusqu'à ce qu'en fait je craque et je me dise, mais vraiment, il n'y a rien d'autre que je veux faire. Et donc je suis partie à la fac. En mode, je sais pas ce que je veux faire, mais en fait, je pense que depuis mes 18 ans, j'étais restée fixée sur je veux en vivre, parce que, au moins en partie, parce que je veux qu'au moins une grosse partie de mes journées, mais au moins une partie de mes journées, soit tout le temps dédiée à l'écriture. Donc en fait, ça, je pense que ça ne change pas. Je suis tellement frustrée, j'ai essayé des fois, tu vois, j'ai essayé quand j'étais en L3 et que j'avais beaucoup plus de taf sur mes dossiers, sur les cours, les partiels et tout, j'étais tellement frustrée, je chialais quand je voyais tout le taf et que je pouvais pas écrire pas autant que je voulais. Ou alors quand j'ai travaillé en 35 heures, même si ça n'a pas duré longtemps, j'étais au bout de ma life en fait. Je n'étais plus moi-même, j'étais à côté de mes pompes parce que j'avais pas assez de temps, j'étais trop fatiguée, ça allait pas de n'avoir que peu de temps pour ça. Donc ça, je pense que ça reste mon premier but en fait, c'est d'avoir la moitié de mon temps ou une bonne partie de mon temps quand même qui est dédiée à ça. Donc pour ça, il faut que j'essaie de gagner de l'argent avec. Ça, pour compléter, c'est ma nouvelle aspiration, on va dire. C'est j'ai un travail salarié actuellement parce que le côté sécurité, je pense que j'en ai besoin en ce moment. Mais à côté, je suis pas à 100%, donc ça va, je vis bien. Mais le plus en fait, c'est le temps que je consacre à mes projets d'écriture. J'aimerais que ça me revienne dans la poche par thune, la thune, parce que ça compte la thune.
Oui, c'est important pour survivre. Donc, c'est pour ça un peu le choix de l'auto-édition, j'imagine.
Alors, oui et non. Pour Passeur de rêve, Alors d'abord, il y a La Ville en rose. La Ville en rose, c'était mon choix parce que je voulais essayer l'auto-édition.
Okay.
Donc il est sorti en septembre.
Ouais.
Je voulais vraiment essayer l'auto-édition parce que ça faisait vraiment, je pense, 1 ou 2 ans que je me renseignais à donf, que j'écoutais les témoignages de gens et que à chaque fois je changeais d'avis. J'étais en mode, ouais, c'est fait pour moi, non, c'est pas fait pour moi. Selon les témoignages en fait que j'entendais, j'étais en mode, ah ouais, non, ça c'est horrible, ah non, ça c'est... Ah ça peut le faire, tu vois.
Ouais.
Et je me suis dit, mais frérot, tu peux pas savoir si tu testes pas. Et donc, La Ville en rose, ça a été l'occasion parce que déjà, c'était un one shot. Donc, je me suis dit, ça peut être un test parce qu'il n'y a pas de tome derrière. Donc, ben, si ça flop, ça flop, quoi. Voilà. Il y a aussi que c'était un roman qui est très cher à mon cœur. Donc, en fait, le fait de garder mes droits était quand même important pour moi. Et en plus, j'ai pu obtenir une bourse pour le financer. Donc en fait, tout ça réuni, ça a fait que, ben en fait, si je voulais essayer, c'était dans la poche, quoi.
Ouais.
Et le fait de ne pas avoir à le financer, en fait, c'était ça mon principal problème, en fait. C'était comment je finance.
Ouais.
Donc en fait, avec la bourse, c'était l'idée. Et en fait, j'ai découvert que j'avais beaucoup aimé le faire. J'ai vraiment, même quand j'ai eu des galères de dernière minute et tout, et que j'ai dû gérer ça, en fait, ça ne m'a pas dégoûtée du tout. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Et donc, je m'étais dit que je continuerais.
Ok.
Et en fait, passeur de rêve, ben, j'avais récupéré mes droits. C'est une grosse saga dans un genre qui n'est pas à la mode en maison d'édition. J'ai déjà été publiée en maison d'édition. Du coup, maintenant, je suis un peu froide par rapport... Enfin, voilà, je risque d'être un peu exigeante et de faire très attention maintenant à ce qui m'arrive.
Ouais.
Non pas que ce soit une arnaque ou quoi, mais bon, j'ai pas envie de revivre cette expérience qui n'était pas la bonne pour moi. Donc, forcément, je suis frileuse. Et puis aussi... Du coup, il y a le fait que ce ne soit pas le genre à la mode, que je ne voulais pas encore attendre 2 ans, parce que mine de rien, il y a des gens, ils ont lu le tome 1 et ils attendent la suite. Et si le roman est publié dans 3 ans, bah, c'est relou, quoi. Donc tout ça, ça faisait que j'avais quand même peu de chances qu'il atterrisse en maison d'édition. Et comme j'avais aimé le faire, je me suis dit, bah, vas-y, en plus j'ai une saga qui est longue, donc c'est vrai que ça peut être un inconvénient, mais aussi un avantage de fidéliser le lectorat au final. En faisant des sorties régulières, vu qu'ils sont tous écrits, au final, j'ai juste, bon, c'est quand même beaucoup de travail à retravailler. Donc, en fait, ça me paraissait la meilleure solution, tu vois.
Ouais.
Et j'ai beaucoup aimé le faire aussi. Donc voilà. Mais l'idée, en fait, c'est quand même de. Enfin, je veux quand même signer en maison d'édition au moins un contrat. Enfin, en fait, j'aimerais être hybride, tu vois.
Okay.
Mais voilà. Donc, je tente aussi. Hein, je tente aussi très fort.
Ouais.
Mais voilà.
Je comprends. Puis moi, je suis totalement partisane d'essayer des trucs pour voir si on aime ça. Donc, je trouve que ton choix d'avoir essayé, c'est super. Puis en plus, tu as découvert que tu aimais ça. Donc, parfait.
C'est ça.
Et ouais. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis par rapport au fait d'être frustrée quand on a un autre emploi ou des études à côté qui nous empêchent d'écrire. Parce que moi, je vivais exactement la même chose. C'est pour ça que j'ai quitté les études et mon salariat pour travailler à mon compte. Et ouais, je comprends. C'est vraiment frustrant quand c'est l'activité que tu préfères au monde et que tu peux pas la faire autant que tu veux.
Ouais, cette sensation quand tu te lèves le matin et que tu as juste envie de te ruer sur ton ordi, mais,
oh, mais tu peux être pas.
Au travail à 2 heures, voilà.
Ouais, je déteste. On a parlé de toi, de tes romans. On va s'en aller tranquillement vers la méthode. Je voulais savoir, comment tu trouves ton inspiration? Est-ce que les films, tes lectures, séries, tout ça, ça t'inspire? Ou c'est plutôt ta vraie vie, peut-être musique?
C'est un peu tout ça,
okay.
Vraiment. En plus, ça dépend des romans. Ma vraie vie, c'est peut-être le moins souvent. Mais d'un autre côté, c'est ma vraie vie qui a inspiré La Ville en rose en grande, grande partie. Mais c'est vraiment un cas à part. Parce que La Ville en rose, c'est mon premier contemporain. Il venait d'un message que je voulais... Enfin, de quelque chose que j'ai vécu et d'un message que je voulais faire passer. De plusieurs messages, mais un principal. Et du coup, c'est vraiment très spécifique à ça. Pour le coup, il y a quasiment que ma vie, en fait, qui a inspiré ce livre. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est dans l'imaginaire, parce qu'au final, en dehors de ça, j'ai quasiment écrit que de l'imaginaire, c'est à fond série, lecture, mais à fond. Enfin, vraiment, il y a des fois, je lis un truc et c'est ça me donne une idée, ou alors ça me donne l'idée contraire, que justement, je veux pas ça. Mais vraiment, les séries et la lecture, c'est genre la base. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'ai vraiment plus d'inspi, je sais que je dois faire une cure, en fait. Je dois me mater plein de séries.
Okay.
Enfin, c'est un truc que j'adore faire, mais j'accorde pas trop de temps à ça, tu vois. Enfin, la lecture, si, mais par exemple, regarder des séries, j'ai pas forcément tout le temps. Et des fois, je me dis, mais en fait, si, à un moment, puisque tu crées, il faut aussi que tu absorbes des idées, en fait. Elles ne peuvent pas venir de nulle part. Donc, je sais, en fait, que l'inspiration va revenir facilement si je regarde des séries.
Ouais.
Et la lecture, maintenant, je considère que ça fait partie de mon taf. Pour moi, c'est un peu comme une pièce et, en fait, les deux côtés de la pièce. C'est genre l'écriture et la lecture, chacun d'un côté, tu vois, pile ou face. Pour moi, ça va tellement ensemble, en fait, que j'arrive à l'intégrer dans mes journées. En mode passer du travail, mais j'ai le droit en fait de faire une pause pour lire parce que de toute façon ça va nourrir mon inspiration. Parce que moi je suis un peu psychologine, j'ai du mal à lâcher la grappe, mais petit à petit je me soigne et je trouve des petits trucs pour piéger mon cerveau, tu vois, et faire genre c'est productif, tu vois, alors qu'en vrai ça me détend, tu vois. Mais, mais les deux sont hyper importants.
Ben, même si ça détend, je pense que ça nous apprend plein de choses. C'est sur la structure d'une histoire, ça nous donne des idées, comme tu dis, de l'inspiration. Donc, je pense que c'est super important de nourrir notre imagination, mais je suis un peu comme toi, à essayer de pas trop faire autre chose que des trucs 100% productifs dans ma tête, mais en fait, prendre une pause, c'est productif. Donc,
oui, exactement. Mais ça, il faut l'intégrer. Vraiment, c'est ça. L'intégrer, c'est dur.
Ouais, il faut comme se le mettre en tête.
Il faut savoir en théorie. Voilà, c'est ça.
À part ça, est-ce que tu travailles seule ou tu préfères te retrouver avec d'autres auteurs, d'autres autrices pour écrire?
Alors vraiment, 95, même 99% du temps, je suis toute seule.
Mm-hmm.
En vrai, c'est quand même ce que je préfère parce que là, maintenant que j'ai rencontré mes copines autrices sur Toulouse et qu'on se voit souvent, en vrai, on se voit souvent au bar, hein, on va pas faire genre, on va pas souvent écrire ensemble. C'est plus pour consommer.
Ouais.
Mais même quand on a fait des petites retraites d'écriture ou où se retrouver dans un café, en fait, on n'écrit pas. En vrai, faut pas faire genre sur les stories et tout, genre. Donc moi, c'est vrai que j'arrive pas trop à écrire quand il y a des gens autour. À part si vraiment tout le monde est focus à la limite, ou genre à la BU et des gens que je connais pas, tu vois, de voir des gens qui travaillent, voilà. Mais sinon, moi, je suis vraiment sur mon fauteuil dans mon salon chez moi et avec mon casque et personne dans la pièce, quoi. Je suis facilement distraite s'il y a quelqu'un. C'est vraiment dans ma bulle et toute seule, me faites pas chier.
Pareil. Est-ce que tu planifies tes romans? Ou est-ce que tu en as déjà planifié, il y en a d'autres que non? Est-ce que ta méthode a évolué avec le temps?
Ouais, ma méthode a évolué à chaque roman, en fait, on va dire. J'avais fait une vidéo à YouTube en collaboration il y a genre un an et demi. En disant que j'étais 100% architecte, ce qui était le vrai à ce moment-là. Et en fait, depuis, j'ai écrit deux romans un peu en mode je sais pas trop où je vais, j'ai l'idée de base. Et donc, en vrai, ça dépend vraiment des romans. Passeur de rêve, j'avais commencé. En fait, ce qui m'a aidée au tout début, c'est que quand on parlait des premiers chapitres que t'arrives pas à dépasser et que t'arrives pas à finir un livre, en fait, j'ai compris qu'en planifiant, ça m'aidait, en fait. C'est la première fois que j'ai fini un livre, c'est parce que je l'ai planifié.
Ouais.
Donc ça a été vraiment la révélation pour moi. C'était que vraiment, en fait, il suffit de savoir un peu où je vais pour arriver à foncer jusqu'au bout. Donc, Passeur de rêve, je l'ai extrêmement planifié. Genre, j'ai fait un genre de G0, ce qu'on appellerait maintenant. Enfin, je l'aurais pas appelé comme ça, mais en fait, quand je re-regarde ce que j'avais fait, c'était un G0. D'ailleurs, et je pense qu'il était tellement trop étalé. C'était limite un premier G. Et que du coup, il est responsable en grande partie des longueurs.
Ok.
Même s'il m'a aidé à avancer, il m'a quand même mis des bâtons dans les roues. Mais j'étais allée jusque-là et j'ai énormément planifié Passeur de rêve. Après, franchement, je pense que j'étais obligée, vu l'univers que c'est. Genre, il y a un world building dans cette histoire. Enfin, t'es obligée, même quand tu fais autant de tomes et que tu veux connecter les trucs dès le tome 1, tu veux mettre un indice pour le tome 6, tu vois, t'es un peu obligée. Donc pour Passeur de rêve, j'ai été très carrée, même si je me suis quand même laissée dévier du plan plusieurs fois dans certains tomes, tu vois. Et les personnages, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Après ça, mon autre saga de fantasy, La Chute des Anges, je l'ai extrêmement planifiée parce que j'ai fait notamment la formation Licar avec. J'ai planifié quand j'écrivais le tome 1, je l'ai planifié vraiment en détail, le tome 1, et pareil pour le tome 2. J'ai pas encore écrit le 3. Donc voilà, là, c'était vraiment pareil, architecte au max. Et en fait, quand j'ai écrit La Ville en Rose, j'ai pas réussi à le planifier. C'était mon premier contemporain, peut-être que c'était le côté contemporain aussi. Mais j'avais le message, j'avais la fin. J'avais juste la vision, j'ai eu une vision de la dernière scène.
Okay.
Je savais que je devais aller à cette scène Et je l'ai eu en regardant un documentaire Netflix sur okay. Duflo et Oli. J'ai eu la scène de fin de La Ville en Rose et en fait c'est elle qui a drivé mon écriture, mais en fait je l'ai fait vraiment, j'avais quelques post-it et en fait j'ai viré mes post-it parce que ça correspondait pas et j'ai fait vraiment au pif, enfin je suis allée comme ça et ça a extrêmement bien réussi, même si après j'ai pas mal réécrit, j'ai rajouté des trucs et tout, ça a très bien marché. Et là ma romance que je suis en train d'écrire actuellement, que j'appelle sur les réseaux ma romance ranch, elle est entre les deux, tu vois. Okay. Elle est, en fait, j'ai planifié le début. Je sais qu'elle est en deux timelines, donc je suis un petit peu obligée de planifier. Mais j'ai planifié genre un petit peu le début. À un moment, je me suis retrouvée où ça ne marchait plus. J'ai fait une pause, j'ai replanifié quelques chapitres. J'ai écrit ces chapitres en suivant mon plan. Ensuite, j'ai fait une pause et j'ai replanifié. Okay. Et là, je suis arrivée à la fin. Et là, il faut que je refasse une pause pour planifier la fin, tu vois. Donc, en fait, ça a vraiment varié et je tends vers le jardinage.
Ok. Et là, pour ta romance ranch, justement, tu as été vraiment comme un architecte, mais au fur et à mesure, on pourrait dire.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Ok, c'est cool.
C'est la première fois que je faisais ça parce que, certes, avant, enfin, même avant, quand je faisais la planification de tout, je changeais. Enfin, il y a des fois où, en fait, le plan, il change parce que les personnages vont décider. Du coup, ça induit des changements. Mais pour autant, j'avais quand même fait une planification jusqu'à la fin. Alors que là. La fin, j'en ai encore aucune idée, tu vois. J'ai grosso modo peut-être une idée très vague, mais vraiment, tout le début, j'étais en mode je sais pas trop comment ça va finir.
Mais en même
temps, c'est une romance, une idée, tu vois, mais bon, tu sais qu'ils vont finir ensemble, mais tu sais pas trop le comment du pourquoi.
Ok, mais en même temps, tu sais, t'as fini quand même 18 romans, donc j'imagine que t'as plus trop le stress de est-ce que je vais être capable de finir, mais est-ce que... Non, c'est ça, mais t'as pas un petit stress de pas savoir comment l'histoire finit? Genre, tu te dis pas, t'as pas peur que t'arrives pas à relier la fin et le début? Parce que moi, c'est ça ma peur.
Ouais, je comprends, mais en vrai, je pense que c'est aussi l'expérience, et surtout l'expérience avec Passeport de rêve, c'est que y a des trucs, j'ai relié des trucs qui semblaient impossibles à relier. Okay. Et quand j'ai trouvé, j'étais en mode, tu es un génie, parce que vraiment, je sais pas d'où ça sort. Et là, en plus, je suis sur un contemporain, one shot, genre tranquille. Genre, pour moi, c'est de la récréation, tu vois. Du coup, je suis en mode. Et en fait, je sais qu'à chaque fois que j'ai un bins, des fois, j'ai un truc que je veux absolument mettre et je sais pas comment le relier à autre chose et tout. Et je me dis, franchement, je verrai plus tard. Je sais qu'à un moment, ça va me tomber dessus. Et ça me manque jamais.
Okay.
Donc, c'est plus un stress parce que je sais que je trouve toujours.
Tu sais comme que t'as une intuition très forte.
Oui.
Okay.
C'est ça, et puis j'ai l'expérience qui me dit que de toute façon j'ai toujours réussi, tu vois, donc ça a vraiment rien de prétentieux, mais je suis en mode à un moment en fait ça va me tomber dessus, tu vois, genre. Mais par contre, à tous mes livres, j'ai le syndrome du milieu.
Ok.
Ça, à chaque fois, au milieu, je suis perdue. Au milieu, il faut que je reprenne mon plan, il faut que je réfléchisse, parce que je commence à connaître les personnages et finalement ils n'étaient pas comme je pensais. Et toujours au milieu, il y a un moment où je suis un peu bloquée, entre guillemets. Et pendant quelques jours, j'ai pas trop envie de continuer. Je suis un peu en mode, ouais, je sais pas où je vais et tout. Et ça me le fait à tous mes livres.
Ok. Ça te revient à chaque fois. Mais en tout cas, c'est cool pour ton intuition. Et tu sais, tu disais que tu planifies parfois au fur et à mesure, parfois au complet. Où tu planifies? Est-ce que tu fais sur Word, juste des post-it ou une autre méthode?
Alors pareil, ça a beaucoup changé. Pour Passeur de rêve, j'ai tout fait sur une page Word blanche. J'avais plusieurs fichiers. J'ai vraiment un fichier qui s'appelle encore rêve et cauchemar. Et genre, c'est mon brainstorm de base de passeur de rêve. Je savais pas ce que j'allais faire et j'avais tout noté en fait un peu en vrac. J'avais fait des mini-fiches perso en mode juste l'âge, vite fait qui sont les grandes idées et tout. Et maintenant encore, quand je me souviens pas d'un truc, je vais sur ce fichier que j'ai depuis mes 14 ans du coup, où je sais qu'il y a tout dedans, il doit faire 40 pages, tu vois, mais c'est vraiment un truc général de l'univers. Des événements, tout ça. Et après, j'avais fait, pareil, mon G0 sur un Word classique.
Okay.
Même ma planification, en fait, je faisais des phrases. Enfin, en fait, je faisais une phrase pour chaque événement. C'était pas forcément des chapitres, mais des événements un peu à la suite. Et après, je les stabilotais, je les surlignais en couleur, selon si c'est l'intrigue principale ou l'intrigue autour de ça et tout.
Okay.
Et en fait, pendant que j'écrivais tous mes tomes de Passeurs de rêve, en fait, je suivais ça. Et au fur et à mesure, en fait, je complétais ma petite phrase en mode là, grosso modo, dans le chapitre, doit se passer ça. Et puis, si j'ai loupé un truc, je rajoute et tout ça. Donc, pour Passeurs de rêve, c'était Word à 100%. Et après, bah, y a eu la méthode Likert pour la chute des anges. Donc, j'ai suivi les petits tableaux qu'ils nous avaient fait, les Excel et tout ça. J'ai suivi les post-it aussi. Okay. C'est là que j'ai commencé avec les post-it, que j'ai bien aimé. Mais le truc chiant sur les post-it, c'est que bah, si tu te trompes ou que tu changes d'avis, bah, faut jeter. Enfin, ouais. En refaire un ou gribouiller dessus, tu vois. Alors, du coup, c'est vrai que c'est visuel, mais des fois, ça me saoule de devoir le changer. Et pour. Donc, j'utilise encore mes post-it en vrai. Genre, pour La Ville en Rose, je l'avais un petit peu fait sur les post-it, mais comme je te dis, au final, j'ai même pas fini la planification que j'ai fait. J'habiterai. Donc, finalement, ça m'a servi à rien. Et je me mettais au fur et à mesure des commentaires dans la marge pour me dire ce qui allait arriver après, tu vois.
Ok.
Donc, c'était vraiment dans mon texte, dans mon fichier.
Un commentaire.
Et un commentaire dans mon fichier. Mais je fais souvent ça. Genre, par exemple, je suis en train d'écrire, je suis en premier jet, il y a une idée qui pop, soit qui a rien à voir, soit c'est un truc plus tard. Je mets un commentaire là où je suis en train d'écrire parce que je sais pas où le noter et j'ai peur de l'oublier, tu vois.
Ouais.
Et au final, je me retrouve avec des commentaires sans queue ni tête des fois qui n'ont rien à voir. Mais je sens là, tu vois. Parce que comme je me souviens de l'endroit où j'étais quand j'ai eu l'idée, eh ben, je peux retrouver quand même, tu vois.
Ouais, au moins tu pars pas tes idées.
Voilà. Ouais. Et pour ma romance ranch, j'ai fait post-it. J'ai fait post-it et j'ai 2-3 idées de scène sur mon téléphone. Et voilà.
Ok.
Vraiment, ça change selon les livres, quoi. Rien à voir. Je sais toujours pas. Je sais pas. J'ai pas de méthode fixe.
Ben, je comprends pour les post-it, parce que moi, en tout cas, ça m'a jamais plu des post-it physiques, là, justement parce que tu les jettes. Donc, c'est pour ça que je suis sur Miro avec des post-it virtuels. Ça me plaît.
Mais je vois tes trucs sur Miro et franchement, ça donne trop envie. J'ai très, très envie d'essayer pour mon prochain. Je pense que pour ma prochaine fantasy, là, je vais essayer Miro parce que tu vois,
je vends trop. Je le conseille. à part ça, on va passer au premier jet maintenant qu'on a parlé de la méthode de planification. Pour toi, comment ça se passe? Là, on a comme appris que t'as un bug de syndrome du milieu à chaque fois. Mais à part ça, est-ce que t'aimes le premier jet? Est-ce que ça se passe bien?
En général, ça se passe bien. En fait, je sais que plusieurs fois quand j'écoutais les podcasts, quand tu posais cette question ou quand Morgan posait la question dans son podcast, j'essayais de répondre et à chaque fois changer de réponse.
Ok.
J'aime le premier jet. Des fois, ça me saoule parce que des fois, ça me demande plus d'énergie. Enfin, ça me demande beaucoup d'énergie, je trouve.
Ouais.
Mais j'aime le premier jet parce que c'est vraiment celui où je découvre l'histoire. C'est là où je peux des fois avoir le flow. Tu sais, vraiment ce moment où t'as tes doigts qui courent sur le clavier et ça sort tout seul et c'est dans une ambiance et avec la musique en plus que j'écoute j'écoute souvent la musique, la plupart du temps j'ai une playlist dédiée à mon projet et ça a un effet instantané où ça me met dans ma bulle et ça me met dans l'ambiance du roman et donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment des moments hyper importants. Donc en vrai dans la plupart des cas pour quasiment tous mes livres, en vrai j'ai vraiment beaucoup aimé le premier jet. La seule exception c'est le tome 2 de La Chute des Anges. Mais c'était dans un contexte spécial parce que je l'ai écrit, j'étais en burn-out et je me forçais. Et si je loupais une séance d'écriture, c'était la mort. Enfin, il y a un jour, j'ai vomi. Je suis rentrée du travail, je me suis arrêtée sur le bord de la route pour vomir et j'avais une migraine tellement forte que j'ai vomi. Je suis rentrée chez moi et je me suis dit, je ne louperai pas ma séance d'écriture. J'avais vomi, frérot. Enfin, tu vois, j'étais au bout de ma vie, il fallait que je dorme. Mais je me suis foutue devant mon ordi et genre, j'ai fini par m'endormir devant, tu vois. Mais donc, dans ce contexte où vraiment je me suis poussée très très loin, bon, après c'est normal, tu vois. Le premier jet a été ignoble et j'ai cru que j'en verrais jamais la fin. J'avais l'impression d'écrire de la merde. Et, bon, j'ai tout refait en réécriture après, tu vois, c'était catastrophique.
Souvent, notre état mental y affecte tout ce qui se passe dans notre écriture aussi. Ben, au moins, t'aimes ça le premier jet. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde.
Et en plus, j'écris, j'essaie de l'écrire rapidement.
Ouais.
Pour pas avoir la sensation que ça traîne, parce que quand ça traîne, justement, c'est là que je commence un peu à me lasser, en mode j'ai de plus en plus de mal à y revenir, tu vois. Donc je pense que, enfin, je suis en prévention pour pas me dégoûter du premier jet, tu vois. Je veux pas non plus me mettre la pression pour que ça fasse comme avec La Chute des Anges et que ce soit trop par jour, quand c'est 12 minutes, tu vois, ou quand j'ai besoin de prendre une pause, parce qu'il y a au moins un jour dans la semaine quand je suis en premier jet où je n'écris pas, où je sais que j'en ai besoin. Mais j'essaie de prévenir ces risques-là. Mais maintenant, après tous ces romans, je connais quel est mon rythme aussi et qu'est-ce qui est de la flemme ou vraiment de la grosse fatigue, tu vois.
Ouais, c'est sûr qu'il y a une différence entre les deux. Donc, toi, t'aimes vraiment avoir un rythme de croisière où t'es quand même assez régulière pour l'écriture. Je comprends.
Ouais. Ouais, parce que ça permet de pas trop te déconnecter de son texte. Après sinon je dois relire un peu, enfin ça m'arrive, tu vois, ça m'est déjà arrivé de faire des pauses même jusqu'à un mois, tu vois. Mais en fait, après, quand c'est de plus en plus dur, plus t'attends, et plus c'est dur de se remettre dedans. Et après, tu dois revenir un peu en arrière. Et en fait, j'ai toujours peur aussi, quand je reviens en arrière, je me dis, j'arriverai plus à, pas à faire aussi bien. Même si des fois, il y a des trucs que je trouve pas bien, je me dis, j'arriverai pas à écrire comme ça. C'est con, mais du coup, ça me fait perdre confiance, limite.
Ouais.
Donc, j'essaie de pas trop revenir en arrière, tu vois.
Ouais, ben je me mets cette discipline-là moi aussi. Parce que sinon, si ça prend trop de temps avant que je revienne à mon texte, j'ai l'impression d'être comme pas capable d'écrire, je sais pas. C'est
moi
spécial.
Pareil, ça me fait ça. Ouais.
Est-ce que tu fais une relecture après ton premier jet où tu relis tout le texte au complet ou autre chose?
Alors, je relis. Enfin, en fait, je relis, mais je peux pas relire sans rien faire. C'est pas possible. Je sais que de base, c'était un peu conseillé à l'écart et tout.
Ouais.
Moi, je suis obligée de retoucher des trucs. En général, je le laisse reposer. Je le faisais même avant qu'il le conseille à l'écart et tout, et je trouve que c'est une bonne idée. Je le laisse reposer, mais des fois, enfin, vraiment, le temps par contre de repos varie. Parce que des fois, j'ai envie d'écrire un autre premier jet avant de me lancer dans l'écriture. C'est un peu, je suis mes envies, tu vois. Mais quand je décide que je vais le réécrire, je le relis en essayant de pas trop toucher au truc et je me mets beaucoup de commentaires dans la marge notamment. Je supprime déjà les trucs qui me paraissent inutiles et je corrige des petites fautes ou des trucs comme ça. Mais grosso modo, je m'attaque au fond. Donc en vrai, c'est un peu comme un genre de bêta lecture à moi-même en vrai. Ça, ouais, je le fais.
Ok, donc vraiment, tu te mets beaucoup de commentaires. C'est
Ouais.
La méthode que j'aimerais essayer la prochaine fois.
Est-ce que tu fais comment, toi?
Ben, j'avais un peu essayé de suivre la méthode Likert où je regardais certains points, en fait, t'sais, cohérence, vraisemblance, tout ça, mais ça m'a pas plu. Et je me suis rendu compte que j'avais comme pas noté toutes mes pensées. Puis je l'avais fait aussi sur papier imprimé et j'avais pas assez de place pour noter tout. Et ça va pas vite quand t'écris à la main, des fois. Donc vraiment, je pense que la prochaine fois, ça va être commentaire sur Word directement.
Moi, je trouve ça pratique, ouais. En plus, c'est le truc le plus... Enfin, immédiatement, c'est facile.
C'est ça.
Enfin, à part s'il y a un truc où je me rends compte qu'il y a un truc qui cloche vraiment et que là, je dois brainstormer dessus ou tout retravailler, je fais dans un fichier à part, par exemple. Mais de façon générale, même si, bah, tu sais pas, t'as une incohérence et tout. Enfin, je trouve que pour la plupart des remarques que je me fais, les commentaires dans la marge, c'est pratique.
Ouais. Et à part ça, est-ce que tu fais appel à des bêta-lecteurs, bêta-lectrices?
Oui, alors en vrai, je l'avais pas. Enfin, c'était pas mon. Dans mes premiers romans, je l'avais pas fait. Passeur de rêve, le tome 1, il y avait plusieurs personnes qui l'avaient lu, mais c'était pas vraiment de la bêta lecture. Jusqu'à ce que. Si, ma meilleure amie, pardon. Il y a ma meilleure amie qui l'a lu, qui m'avait fait une bêta lecture en béton armé. Genre, elle avait un fichier Word à côté. À chaque fois qu'elle tiquait sur un truc, elle me mettait un commentaire, tout ça.
Cool.
Donc, si, en vrai, si quand même j'ai eu assez tôt ma meilleure amie, on s'est toujours bêta lu. Et surtout qu'elle est très pertinente et très trash aussi. Et moi, j'étais super susceptible, donc des fois, ça pouvait... Mais en vrai, elle m'a grave appris à accepter la critique. Donc vraiment, je la remercie pour ça. Maintenant, c'est plus difficile de me blesser par rapport à ça. Surtout si j'ai pris du recul entre-temps, que j'ai retravaillé et que j'ai eu le temps de me détacher du texte un petit peu. Et depuis l'ICAR aussi, je le considère plus comme une vraie partie du travail, tu vois. Alors qu'avant, bon, c'était, je faisais lire à ma meilleure amie pour avoir son avis, et une autre amie de fac qui lisait en tant que lectrice et qui ne faisait pas des retours très pointus sur chaque point, mais qui faisait un retour de lectrice. Mais maintenant, je le fais plus en mode, je cherche des gens pour faire une bêta lecture plus poussée, on va dire. Donc, je l'ai fait sur La Chute des Anges, le tome 1, il a été bien bêta lu, et les bêta lecteurs m'ont énormément aidé à le retravailler. La Ville en Rose, bêta lecture de 4 personnes, je crois, dont une qui est pro. Bon, une amie qui me l'a fait gracieusement, mais en plusieurs mois et tout, mais vraiment qui était très très poussée.
Okay.
Et ça aide tellement pour moi maintenant, c'est indispensable en fait. Même si en fait j'ai toujours un problème, c'est que comme j'ai plein de projets sur le feu, que j'avance vite, et ben en fait je suis toujours en manque de bêta lecteurs parce que j'ai pas assez de personnes. Enfin, ils lisent plus lentement que moi je n'écris.
Ok, t'es ouais, tellement infusée.
En plus, j'écris des pavasses et les gens, ils font ça sur leur temps libre, donc évidemment que c'est normal, tu vois. Mais là, je suis vraiment en train de me dire, il me faut des bêta lecteurs pour le tome 2 de Passeur de rêve. Je ne l'ai pas encore écrit, mais bon, Et en même temps, il me faut une BD bêta lecteur pour ma romance ranch que j'aurais terminée. Et en même temps, enfin, tu vois, donc j'ai limite deux projets qui sont souvent pris en même temps. Parce que non, en fait, là, les Anges tome 2, c'est pareil, il attend des bêta lecteurs. En fait, là, j'ai trois projets en attente de bêta lecteurs presque. tu vois, et ils peuvent pas, mes bêta lecteurs ne peuvent pas lire les trois.
Ouais,
donc
ouais.
Voilà, c'est un peu ce problème en ce moment.
Ouais, ben quand on écrit des pavasses, c'est compliqué parce que le bêta lecteur, ça leur prend beaucoup de temps à bêta lire un livre. Tu sais, c'est plus long et ardu commenter sur un livre que juste le lire normalement. Donc, ouais. Mais moi, je l'avais fait au fur et à mesure parce que je savais que vu que mon roman est trop long, ça serait un peu chiant pour le bêta lecteur de recevoir 160 000 mots comme ça dans la tronche d'un coup.
Ben, quand tu en parlais sur ton podcast, je m'étais dit que je pourrais essayer, mais en fait,
Ça
le
dépend des
problème,
méthodes, ouais.
moi, je fais pas. Ouais, le problème, c'est que je fais pas chapitre par chapitre. Enfin,
Ok.
je préfère. Je fais un passage. Enfin, je lis chapitre par chapitre et je modifie les trucs les plus rapides. Mais en fait, après, je fais un passage où des fois, je prends un thème, si c'est un gros truc à changer, et je fais tout le livre en même temps, tu vois. Donc, en fait, il n'y a jamais. Mon livre, il est prêt. Au moment où vraiment tous les chapitres sont finis, mais genre des fois je peux arriver à la fin et en fait de vouloir rechanger des trucs au début. Donc en fait, je peux pas vraiment envoyer au fur et à mesure, il faut que je l'envoie quand j'ai fini et ils ont tout d'un coup quoi.
Ok, ouais, t'as vraiment une méthode différente de la mienne là-dessus. C'est quoi ton rapport à l'étape de la bêta lecture? Est-ce que t'en as hâte ou plutôt peur ou ça te fait ni chaud ni froid?
Alors j'avoue que j'ai hâte et en même temps il y a quand même une part de moi. Où je redoute un petit peu quand même. Je suis plus trop susceptible. Enfin, je suis pas susceptible. Bon, je l'étais à une époque, mais et surtout que, enfin, je considère que c'est mon travail et que je fais pas tout bien. Enfin, genre, il y a forcément des trucs qu'ils vont enlever. C'est ce que je leur demande. Et en plus, j'ai confiance en mes bêta lecteurs et bêta lectrices. Donc, ceux que j'ai actuellement, en plus, je sais comment ils s'expriment et tout. Donc voilà. La plupart du temps, je suis assez tranquille, même si on fait des retours. Des incohérences ou des trucs un peu gros, tu vois, je sais que je peux régler ça, tu vois. Mais il y a quand même une fois, pour la chute des anges, où c'était une personne qui m'avait répondu à ma story sur les réseaux, et donc je la connaissais pas du tout, qui m'a fait un retour que j'ai eu du mal à prendre. Déjà, il m'a heurté pour le coup, et j'ai eu du mal à le prendre en compte parce que j'arrivais pas à juger en fait ce que j'en retirais. Finalement, j'ai réussi à trouver. Qu'est-ce que je pouvais changer par rapport à ce qu'elle m'avait dit. La façon dont c'était fait, c'était très trash et ça a été dur à encaisser. Il y a vraiment eu le moment où je l'ai reçu, je me rappelle encore du moment où c'était. J'ai vraiment, sur le moment, je me suis dit, mon livre est nul. Vraiment, il est claqué au sol, j'abandonne cette saga et je commence autre chose. C'est vraiment la pensée que j'ai eue sur le moment. C'est quand même un truc que je pense rarement, tu vois. Mais sur le moment, c'était dur à avaler, quoi. Je me rappelle, j'allais à la salle avec mon copain et je courais sur le tapis, il me parlait et moi, je pensais qu'à ça. Je l'écoutais pas du tout. Ça tournait dans ma tête en mode, putain, mais Crescendo, il est nul. Franchement, pourquoi j'ai écrit ce livre, tu vois? Vraiment, le lendemain, j'ai réussi à m'en défaire, mais sur le moment, mes émotions étaient dans tous les sens. Et ça faisait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé.
Ben, je pense qu'il y a des bêta lecteurs, bêta lectrices qui sont quand même très, très directs dans leur façon de dire les choses. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y a des feats entre deux personnes qui se font pas. Genre, j'ai vu des amis à moi qui ont eu des bêta lecteurs, bêta lectrices pour qui ça a été un peu compliqué la collaboration. Puis, je pense que c'est normal, tu sais, on est tous humains, on a tous des sentiments. Donc, parfois, il peut y avoir comme des frictions. Puis, je pense que c'est dur aussi de recevoir un retour qui est trash, justement, parce que là, tu remets tout en question et, comme tu dis, ça
Oui, c'est
t'a
ça.
heurté pas mal.
Oui, ben en plus, dans la façon dont elle avait dit, il était difficile pour moi de savoir si elle avait aimé le roman. J'avais l'impression qu'en fait, du coup, enfin, le rôle du bêta lecteur, c'était bien de dire ce qui allait pas, même si les bêta lecteurs disent aussi ce qui va, tu vois. Mais dans les trucs qu'elle n'avait pas aimé, j'avais vraiment l'impression que du coup, elle n'avait pas aimé le livre. Et bon, des gens ont le droit de pas aimer, mais c'est vrai que pour un bêta lecteur, c'est quand même pas si souvent. Et vraiment, sur le coup, je me suis dit, merde, mon livre, elle le trouve vraiment nul, tu vois.
Je comprends. Des fois, c'est dur à encaisser.
Ouais, le lendemain c'est passé, mais
Oui, ben c'est ça.
il fallait vraiment que l'émotion passe, tu vois. Heureusement, ça a pris un jour et voilà.
T'as réussi à digérer au final.
Ouais.
Comment tu planifies ta réécriture? Tu nous disais que tu fais vraiment comme par passe en fonction des intrigues. Est-ce que tu notes tes changements quelque part à part en commentaire à la marge, sur la marge?
Quand c'est des gros changements, ouais. Ouais. Là, en plus, j'ai un truc différent. Là, par exemple, pour Passeur de rêve, donc pour le gros chantier que j'ai pour changer tous les tomes. Parce qu'en plus, comme à chaque tome que je réécris, je le publie quasiment après. Enfin, voilà. Il arrive à publication, genre là, le tome 1, il est publié. Techniquement, je ne dois plus changer de truc dedans. Donc, du coup, je me suis fait un autre fichier où ça s'appelle Changement induit. Et c'est vraiment genre. Tome 1, et dessous, j'ai fait une liste de trucs qui sont soit non résolus dans le tome 1, soit que j'ai changé, qui du coup changent des trucs dans les tomes suivants. Et donc là, je me suis vraiment un gros fichier parce que vraiment, Passeur de rêve, c'est tellement spécifique vu la taille de la saga.
Ouais.
Je suis obligée que tout soit cohérent. Et encore maintenant, genre au moment où j'ai fait la maquette et où vraiment je l'ai chargée sur Amazon, je me suis dit, oh mon dieu, il y a cette incohérence, genre. Et je sais que je suis la seule à l'avoir. Franchement, les gens, je pense pas qu'ils vont capter. Mais je me suis dit, ça fait une grosse incohérence. Et je me suis dit, ok, il faut que je trouve le moyen dans les autres tomes, quelle que soit la solution, qu'il n'y ait pas d'incohérence. Tu vois, genre, je sais pas comment je vais me débrouiller. Parce qu'en fait, il aurait fallu que je change une phrase. Mais du coup, je peux plus le faire. Parce que les gens, ils vont lire cette version et tout. Donc, je vais trouver un moyen d'éradiquer l'incohérence, tu vois. Mais je l'ai noté en majuscule et en rouge dans mon nouveau fichier, tu vois. En mode, pour moi, c'est un truc, genre, il faut pas que je me débrouille dessus, tu vois. Mais de façon générale, sinon, pour tous les romans, s'il y a des trucs gros, je le note ailleurs. Ou en vrai, même sur des post-it et tout, j'avais pas vraiment d'endroit encore. Mais, ou alors à la fin du roman, voilà. Mais globalement, en fait, c'est mes petits commentaires dans la marge.
Ok. En tout cas, on fait confiance à ton intuition pour résoudre cette incohérence.
Ouais, s'il vous plaît.
Est-ce que tu apprécies la réécriture?
Ouais, j'aime bien la réécriture. En vrai, c'est pareil que le premier jet. Je pense qu'il y a des fois où je m'en suis un peu dégoûtée, c'est que j'en ai enchaîné trop à la suite.
Ouais.
Parce que je sais pas pourquoi, souvent j'enchaîne des premiers jets à la suite. Genre là, avant que j'écrive pour Molantin. Ça faisait un an que j'avais pas écrit de premier jet et je m'étais tapé que des réécritures. Je m'étais tapé La Chute des Anges tome 1, La Chute des Anges tome 2, Passeur de rêve tome 1 et 2 que j'avais refusionné, plus La Ville en rose. En 6 mois, je
Ouais,
m'étais
ça fait
tapé 4
beaucoup.
réécritures. Ouais, j'en pouvais plus. Et donc le premier jet, il m'a appelé. Mais l'année d'avant, j'avais fait que des premiers jets et j'en avais marre. Donc en vrai, je crois que j'aime bien les deux étapes. La réécriture. J'ai l'impression quand je m'y mets que ça me demande un peu moins d'effort que le premier jet, même si en vrai des fois quand tu te retrouves face à des trucs gigantesques qui te demandent une énorme réflexion, un gros brainstorming et tout, si ça prend de l'énergie.
Ouais.
Mais de façon générale, j'ai l'impression quand je m'y mets, en fait, ça me paraît plus chill, même si en vrai bon c'est le moment de pas faire d'erreur, tu vois. Mais non oui j'aime bien la réécriture parce qu'en fait tu peux vraiment connecter les trucs. Après quand t'arrives sur un passage que t'as eu la flemme d'écrire au premier jet. Ou que tu sais que c'était nul et qu'il faut le reprendre et qu'en fait tu dois réfléchir dessus et que pendant 3 jours t'arrives pas à trouver comment faire, ça c'est chiant. Mais bon, grosso modo, j'aime bien quand même.
Ok, je comprends. Ben, c'est sûr que quand tu es sur une même étape pendant aussi longtemps, ça fait comme un gavage.
C'est ça.
Est-ce que tu as des habitudes ou une routine qui te motive à écrire, qui te motive à t'y mettre ou tu n'en as pas vraiment besoin?
Être seule et chez moi, c'est vraiment les meilleures conditions pour écrire.
Ok.
Dans mon fauteuil, j'ai vraiment mon fauteuil, celui que tu vois là à l'écran avec le plaid rouge dessus.
Ok.
C'est vraiment, je me sens trop bien dessus avec un plaid sur les genoux quand il fait froid. Et mon casque pour la musique. Franchement, c'est. Et le téléphone un peu loin de moi, enfin en mode silencieux et je le regarde pas, voilà. Il y a vraiment que ces conditions quasiment. Et en général, je suis plus efficace le matin ou alors entre genre 16 et 19 à peu près, mais plus le matin. Et le soir, enfin vraiment soir après 21h, par contre, c'est mort. Même 20h, des fois, c'est un peu chaud. Mais ouais, à part ma musique indispensable et de l'eau aussi. Oh là là, je bois tellement quand j'écris. Du coup, je suis obligée de me lever tout le temps pour aller aux toilettes. Et du coup, pas de distraction, genre pas de téléphone, pas de gens qui parlent et tout. Voilà, c'est les conditions pour écrire.
Ok, tes conditions optimales.
Il faut que j'aie mangé le matin aussi, hein, sinon je ne peux rien faire.
Pareil. Entre le premier jet et la réécriture, est-ce que tes projets changent beaucoup ou ça dépend de tes projets?
Je me rends compte qu'ils changent de plus en plus. Au début, enfin, dans mes premières écritures, quand je comprenais ce que c'était la réécriture, pas tant que ça. Et maintenant, en fait, je me rends compte que oui, sur La Ville en rose, notamment grâce à la bêta lecture en vrai, Sur La Ville en Rose, la bêta lecture pro que j'ai eue, elle m'a aidée quand même vachement. Genre, j'ai vraiment changé pas mal de trucs dedans et j'étais tellement fière du résultat. Genre, waouh, pour moi, ça n'avait plus rien à voir. Et puis, Passeur de rêve, n'en parlons pas. Laisse tomber.
Ouais.
Les tomes de passeur pour avoir rien à voir. Donc, en vrai, même là, je suis des anges. Ouais, de façon générale, là, depuis que vraiment je sais faire une réécriture et que j'ai des gens qui m'aident en bêta lecture, ça change énormément. Pourtant, souvent, quand j'arrive à la fin de ma réécriture à moi, je me dis, je peux pas faire mieux. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont... Enfin, j'ai besoin d'autres gens, en fait.
Ouais, ben nous, on a trop nos lunettes de personne qui a trop vu notre roman, genre. Donc, je pense que c'est normal. Parfait. Donc, on a parlé en long et en large de ta méthode, mais j'ai quelques autres questions pour toi par rapport un peu plus aux réseaux sociaux et à ta vision de l'opinion extérieure. Donc, la première, c'est est-ce que... Ben en fait, si tu avais la confirmation que personne ne lirait jamais ce que tu écris, est-ce que tu penses que tu écrirais différemment?
C'est marrant parce que c'est un truc qui m'était venu en tête il y a quelques temps.
Mmh.
Et je pense que la réponse est oui et de plus en plus. autant quand j'ai commencé et même au début de Passeur de rêve, j'ai vraiment écrit Passeur de rêve pour moi, au premier abord. Enfin, je voulais écrire la saga que je voulais lire, tout simplement. Donc, je me souciais pas vraiment du reste. Mais il y a de plus en plus de fois où je me dis « Ah, je vais être lue ». Et du coup, ça me freine dans quelque chose. Et c'est con, mais par exemple, les scènes spicy, c'est un truc... Des fois, j'ai... Enfin, dans La Ville en Rose, bon, La Ville en Rose, c'était pas la question, mais notamment, elle est extrêmement implicite parce que je savais que j'allais être lue aussi. Même si, franchement, je pense qu'elle aurait pas eu sa place. Enfin, j'avais pas envie d'écrire une scène explicite.
Okay.
Et ça allait pas avec le roman. Mais, c'est typiquement le genre de truc où je me dis, ah, tu vas être lui.
Ok, tu te retiens un petit peu des fois.
Ouais. Ouais, alors que... Enfin, en fait, je l'écris. Dans mon premier jet, je l'écris et je me dis, on verra plus tard.
Mm.
Mais il y a vraiment des fois où je me dis, est-ce que je ferais pas une version pour moi et une version officielle?
Je comprends, je comprends. Et par rapport au thème, j'imagine que tu te brimes un peu moins que par rapport vraiment à certaines scènes, comme par exemple les scènes spicy.
Par rapport au thème, non, en vrai, enfin, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête.
Mm-hmm.
Ça va, je pense que ça a dû m'arriver de me dire, ouais, c'est un truc délicat à traiter. Ou... Là, j'ai pas d'exemple tout de suite, donc je pense que ça va pour le moment.
Ok. Et c'est quoi ton rapport avec les réseaux, Bookstagram, tout ça vis-à-vis l'écriture? Est-ce que ça affecte ton écriture?
Depuis que je suis sur Bookstagram, ça a changé beaucoup de choses sur mon écriture. Jusqu'à récemment, j'ai pas changé genre mes habitudes, la façon, pas la pression, mais la discipline que je me mets. Je suis disciplinée depuis le début. Genre même quand j'avais 16 ans, par exemple.
Okay.
J'étais disciplinée à écrire tous les jours ou quasiment, à faire tant de chapitres par semaine et tout ça. Ça, je l'ai toujours eu. Et je pense que j'étais comme ça de toute façon à l'école aussi. Enfin, je suis comme ça, je pense, de façon générale. Je sais que quand je veux mener un projet à bien, en fait, il faut que je sois disciplinée tout simplement. Il ne va pas se faire tout seul. Mais ce que ça a changé, les réseaux sociaux, c'est que comme on est vraiment dans un microcosme et que on voit les réussites des gens et tout ça, j'ai souvent l'impression que ce que je fais, c'est jamais assez.
Mmh.
Ça m'était pas arrivé avant. J'étais un peu pas la seule qui écrit dans mon entourage, mais celle qui est le plus à fond, parce que j'ai des amis qui écrivent, mais souvent c'est genre un peu comme ça, quoi, devant la télé le soir et tout. Et c'est tout à fait légitime, genre y a pas de souci, elles sont autrices aussi. Mais j'étais souvent celle qui était vraiment qu'ils considéraient vraiment comme quelque chose de sérieux et qui avançait vite et tout ça. Et c'est vrai que depuis que je suis sur les réseaux, j'ai souvent le sentiment que je fais pas assez ou je suis pas assez. Et c'est chiant. C'est très très chiant. Ou alors même que en fait, avoir un contrat, c'est super facile. Et qu'en fait, si j'y arrive pas, c'est vraiment que je suis une grosse brêle.
Ouais.
Ça m'est arrivé très souvent dernièrement.
Ouais.
Mais c'est facile parce que comme on est tous réunis au même endroit, en fait... Forcément, là, statistiquement, il y a plus de gens qui réussissent.
Ouais.
J'oublie, et on oublie, en fait, que si tu vas dans la rue ou même auprès de ton entourage plus éloigné, les gens, quand tu dis que t'écris déjà, t'es un peu l'ovni, tu vois.
Mm-hmm.
Et si en plus tu dis, que t'as publié un livre en auto-édition ou même que t'as signé dans une petite maison d'édition, par exemple, pour eux, c'est un truc de ouf. Ils connaissent personne qui a fait ça. Ouais. Mais quand t'es dans un book Instagram, c'est pas ouf. Tu peux le percevoir comme ça, tu vois. Et c'est vrai, ce côté, ça peut m'arriver, même si j'essaie de prendre de la distance pour ça et de rester focus sur ce que je veux, en fait. C'est vrai que des fois, ça peut être des trucs qui m'affectent, ouais.
Je comprends. Ce côté microcosme-là affecte énormément les auteurs, j'ai l'impression. Puis en plus, il y a beaucoup plus d'auteurs qui parlent de leur oui que de leur refus. Il y a beaucoup d'auteurs qui parlent pas du tout de leur refus et ils en reçoivent plein, mais c'est juste qu'ils le disent pas. Donc nous, on a l'impression que le oui a été super facile à avoir, mais en fait, non. Et genre, notre vision des soumissions, des refus, des oui, des contrats d'édition, tout ça, c'est comme vraiment altéré par les réseaux sociaux, malheureusement. Donc, c'est dommage.
Oui, et puis en plus, je peux pas en vouloir aux gens parce que moi-même, quand j'ai fait des soumissions, je l'ai pas dit. Parce que je voulais pas qu'on me demande. Si j'avais des noms, je voulais pas le dire. Enfin, parce que, voilà, tu vois. Enfin, vraiment, c'est un truc, je pourrais jamais blâmer les gens pour ça. Mais pour autant, c'est vrai que ça participe à ça. Et en même temps, je peux pas blâmer les gens qui disent j'ai reçu un oui sur les réseaux parce que, évidemment, je veux partager.
Ouais, c'est normal. Tu sais, c'est pas. Je disais pas ça dans le sens. Ça ne devrait pas être comme ça, mais en même temps, je pense que c'est dommage si on se brime de parler de nos refus parce qu'on a honte ou quoi que ce soit, parce qu'on ne devrait pas avoir honte. En tout cas, c'est tout un gros sujet, je trouve.
Ouais, c'est clair.
Ensuite, je voulais te demander aussi, bon, je connais un peu la réponse parce que je regarde tes réseaux, ton podcast et tout. Est-ce que tu as tendance à beaucoup communiquer sur tes romans? Est-ce que ça te fait peur ou est-ce que c'est quelque chose qui est super facile pour toi?
Alors, la réponse est en plusieurs parties parce que je me suis mise sur les réseaux sociaux de base parce que je me sentais obligée. Parce que c'était du coup, j'avais commencé à créer un compte en 2020 pendant le confinement. Et c'était juste le truc qui me terrifiait le plus au monde. Vraiment, c'était impossible pour moi de me dire que j'allais faire ça, sauf que je m'en sentais obligée. Mais en fait, ça m'a bloquée. Et du coup, le compte est resté mort pendant un an.
Ok.
Jusqu'en 2021, où je me suis fait violence, vraiment violence, pour me dire, il faut que tu le reprennes, il faut que tu t'y mettes sérieusement. Et franchement, c'était un calvaire. C'est vraiment... C'était un calvaire, je n'en dormais pas la nuit. Je me disais, il faut, j'ai pas le choix, sauf que j'y arrivais pas. J'ai vraiment mis du temps à trouver, même des fois, enfin, je tatillonne encore dessus, enfin, je n'arrive pas encore à trouver ce qui me convient, même si ça va mieux. Mais au début, je ne savais pas comment communiquer, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas faire un feed, j'avais l'impression de parler à un mur. Enfin, je pense que ça arrive à tout le monde, de toute façon, quand tu crées un compte, c'est normal, tu parles à un mur. Ouais. Voilà, les gens, ils te connaissent pas encore, donc c'est normal. Et pourtant, maintenant, c'est vrai que parler... Alors, pas forcément mon rapport au réseau. Genre, des fois, ça peut me saouler de poster ou de ne pas avoir assez de likes, selon moi. Ou voilà, je peux avoir encore des craintes liées à ça. Ouais. Par contre, parler de mes romans, ça ne me dérange pas. Enfin, je le fais naturellement maintenant. Okay. Que ce soit... Bon, dans le podcast, même si j'ai un peu arrêté depuis quelques mois, j'adore le faire. Et après, en story, en post et tout, j'adore. C'est vrai que quand il y a l'enjeu de « je dois vendre un livre », c'est un petit peu différent parce qu'il y a un petit côté où je me dis je suis obligée, entre guillemets. Alors que quand je suis en train de l'écrire, que tu vois, là par exemple, je parle de ma romance 30, je pourrais ne pas en parler parce que je suis au premier G, j'ai genre 50 projets qui passent avant au niveau communication. Mais en fait, j'aime bien, tu vois. Donc maintenant, ça, je le fais. Enfin, dans chaque étape que je suis, j'aime communiquer sur l'étape à laquelle je suis. Par contre, c'est vrai que quand mon livre il est en ligne, dans ma tête, il est passé. Et du coup, je peux avoir plus de mal à communiquer dessus. Okay. Même si en vrai, ça va. Genre, j'ai adoré communiquer sur La Ville en Rose. Là, j'ai un peu de mal avec les réseaux en ce moment. Donc, c'est un peu plus compliqué pour Passeur de Rêve. Mais ça va. Mais c'est vrai que quand je partage ce que je fais au quotidien, donc ça implique l'écriture et tout le reste, ça maintenant, c'est vraiment facile.
Ok. Je te rejoins un peu, je trouve ça le fun de parler des étapes au fur et à mesure parce que tu te sens un peu moins seule, tu sais, t'as comme des gens qui viennent t'écrire pour te dire, peu importe, là, comment ça se passe pour eux ou qui trouvent ça intéressant que t'en parles et tout, donc je trouve ça cool moi aussi d'en parler au fur et à mesure, même si c'est pas un projet qui est genre prioritaire dans ta tête. Et j'aurais vraiment pas deviné qu'en fait au début c'était vraiment dur pour toi les réseaux sociaux et tout, genre j'avais pas cette perception-là.
Ouais, mais je pense que tu m'as découvert peut-être aussi quand j'étais plus à l'aise, même si vraiment c'est une catastrophe, mais les réseaux, ça a fait ça, genre. Mais vraiment, ça m'a pris plus d'un an pour ne pas avoir d'angoisse à cliquer sur le logo Instagram. Okay. Parce que maintenant aussi, il y a le côté où il y a plein de gens avec qui je parle tous les jours que je considère vraiment comme mon entourage et des gens que j'ai rencontrés en vrai et tout. Du coup, c'est différent parce que maintenant, je pourrais pas m'en passer. Vraiment, j'y vais naturellement et vraiment avec grand plaisir. Mais au début, mais vraiment, c'était tellement difficile, mais un truc que je me disais que vraiment, j'y arriverais jamais. Et de me dire que maintenant, la plupart du temps, j'y vais avec plaisir et sans sentiment d'obligation. Même si en ce moment, j'ai le sentiment d'être obligée de bosser, mais bon, ça va, ça n'a aucune mesure avec ce que j'avais avant, tu vois.
Okay.
C'est fou quand même, tu vois, d'avoir ce point switché et d'avoir trouvé mon compte et surtout rencontrer des gens pour de vrai. Enfin, vraiment, de me dire, c'est ma safe place un peu et c'est mon compte et je fais ce que je veux avec et j'aime bien partager ma vie même en dehors du un petit peu en dehors de l'écriture dessus parce que je fais ce que je veux dessus mais c'est vraiment où j'aurais jamais pensé que j'aurais un petit côté et j'aime bien quand même partager un peu ma vie, tu vois.
Là, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais je pense que c'est normal, oui, c'est ça. Au début, sur les réseaux sociaux, genre, tu te sens tellement solitaire, comme tu dis, tu as l'impression de parler à un mur, donc c'est clair que c'est moins intéressant.
Je vois que ça me le fait avec TikTok typiquement en ce moment.
Ouais, moi aussi.
Enfin, en ce moment, ça fait vraiment un an et demi que j'essaie d'être sur TikTok, mais que j'y arrive pas aussi parce que y a ce côté où il y a un peu un mur. Même s'il y a des gens qui me suivent d'Insta, donc des gens que je connais, tu vois, donc j'ai quand même pas un mur parce que j'ai quand même des gens. Mais le côté recommencer à zéro presque, ça me fait peur. Et en plus, le côté, TikTok, c'est un gouffre. Donc, c'est un gouffre à temps. Moi, je trouve que c'est pire qu'Insta. J'ai juste peur que ça aspire le peu de temps que j'ai. Et c'est ça qui me fait le plus peur, en vrai.
Ouais, puis TikTok, c'est un autre réseau aussi qu'Instagram. Donc, il faut apprendre tout comment ça fonctionne, c'est quoi les codes et tout. Donc, c'est de l'investissement quand même.
C'est ça.
Donc, je t'ai posé toutes mes questions. Il nous manque juste le petit segment comptoir à potions. Je sais pas si tu le connais bien, mais en fait, on imagine qu'on est dans un monde imaginaire, que je peux te donner des potions qui t'évitent des problèmes en écriture. Et donc, la première, c'est une potion qui te permet de sauter une étape du processus d'écriture. Et donc, laquelle choisirais-tu entre planification, premier jet, relecture, réécriture et synopsis?
J'ai été entendue poser cette question à d'autres gens et vraiment à chaque fois je changeais à chaque épisode. Franchement, synopsis, je pense. Parce que même si les autres étapes, des fois, elles peuvent être dures. Enfin, la planification, j'aime trop.
Moi aussi, j'adore.
C'est trop, trop bien. Les autres étapes, même s'il y a des moments où ça peut être dur, je kiffe quand même. Enfin, je voudrais pas la sauter quand même. Faut pas pousser. Ouais, non, le synopsis, c'est relou comme pas possible.
Il n'y a pas beaucoup de monde qui aime le synopsis. C'est un peu le mal-aimé, honnêtement.
Ah ouais, en même temps, c'est pas notre... Enfin, c'est pas la même chose. C'est tellement différent.
C'est en fait, pas vraiment notre travail, on dirait, de base. Là. Donc, ouais.
Ouais, c'est ça.
Maintenant, si je t'offrais une potion qui te permettait de t'améliorer dans quelque chose, ce serait dialogue, description, premier chapitre ou fin de roman?
Description. En fait, okay. Je pense pas qu'il faut le mieux en description. Parce que j'ai quand même des compliments sur mes descriptions, notamment dans Passeur de rêve.
Ok.
Mais j'aimerais être plus à l'aise. Enfin, ça me demande plus d'efforts. Les dialogues, tranquille, c'est vraiment ce que je préfère. Par contre, tout ce qui est passage descriptif ou même action en vrai, ça me saoule plus.
Je comprends. Et si tu pouvais t'offrir une potion qui rendrait toutes tes scènes d'un type quelconque meilleur, ce serait quoi entre scène d'amour, scène d'action, de combat ou scène un peu plus profonde?
Action-combat sans hésiter. Je crois que dans La Chute des Anges, bon, c'est quand même des anges qui se battent. Donc il y a plein de scènes de combat. À la réécriture, je pense que je les ai toutes réécrites. Vraiment, c'est trop dur à écrire.
C'est compliqué, ouais. Je te rejoins là-dessus. C'est tellement dur, surtout si c'est une scène de combat avec beaucoup, beaucoup d'acteurs dedans, genre... un clan versus un clan avec foule de gens. C'est un peu l'enfer. Ouais, c'est clair.
En plus, moi, j'arrive pas trop à écrire... j'arrive pas à avoir un ton, pas dramatique, mais un ton sérieux. J'ai l'impression que j'ai mis vraiment des années à ce que ce soit pas ridicule quand j'essaie de faire un ton sérieux, tu vois. Et genre, typiquement, le combat, j'avais l'impression que... quand j'écrivais une scène de combat, c'était trop léger, en fait. Genre, tu vois, même s'il y avait des gens qui mouraient, c'est... Pour moi, j'étais en mode, c'est pas triste.
Je comprends.
T'es pas pris au trip. C'est trop dur.
Ouais, c'est vraiment complexe. C'est le pire truc au monde. Je suis d'accord. Bon, ben, je t'ai posé toutes mes questions. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. C'était très, très fun. Je suis contente d'avoir appris plus sur ta méthode. Et aussi, ben, je pense qu'on s'est découvert plein de points communs parce que je répondrais presque la même chose à la plupart des questions.
Moi, je l'avais remarqué en écoutant ton podcast, je me disais, ah ouais, je me reconnais, ouais, dans ce qu'elle dit.
Bon, en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir pris ton temps pour répondre à tout ça et très contente de t'avoir reçu.
Merci à toi, vraiment, c'était génial. Je suis trop contente d'être venue sur ton podcast que j'écoute.
Je suis contente que tu l'écoutes aussi et que tu l'aimes. Merci beaucoup.